réplique Ils se souviennent avec Robert Bobert et Georges Kiegeman. Après Quoi de neuf sur la guerre, ouvrage qui m'a beaucoup marqué, j'ai lu le dernier livre de Robert Bobert, paru cet automne, Par instant, la vie n'est pas sûre. J'ai lu aussi, au même moment, le témoignage extraordinaire de Georges Kiegeman, paru dans Le Monde du 6-7 décembre de cette année, sous le titre qui en occulte la dimension douloureuse, la vie m'a offert une succession de bienfaiteurs. Et j'ai eu envie de réunir, autour du souvenir, ces deux hommes d'une même génération qui ont eu des enfances comparables et qui n'en ont pas tiré les mêmes leçons. Ces choses faites aujourd'hui, j'en suis très honoré, un peu intimidé aussi, et j'interrogerai pour commencer Robert Bobert sur la forme qu'il a voulu donner à son livre. Celui-ci se présente en effet comme une longue lettre adressée à Pierre Dumayet, le cofondateur de la grande émission Lecture pour tous, décédé il y a 9 ans, le 17 novembre 2011 exactement. Pourquoi ce choix épistolaire ? Pourquoi cette bouteille à la mort, Robert Bobert ?
Alors le choix épistolaire n'est pas venu tout de suite. J'avais envie, après avoir fait un film pour le cinéma qui s'appelle « Vienne avant la nuit », comme j'ai eu quelques démêlés concernant l'importance du texte, parce que dans le cinéma, ce qu'on appelle le commentaire est toujours mis un peu de côté, comme un peu comme un parent pauvre, comme un émigré, puisque le son est venu après l'image. Et puis j'avais pris quelques notes comme ça, et je m'en sortais pas parce que je suis pas quelqu'un qui peut faire une démonstration à propos d'une technique, et j'ai besoin de parler avec quelqu'un. La relation est une chose pour moi importante. Je crois que la relation, on en parlera certainement tout à l'heure. Et je me suis dit, mais j'ai travaillé quelques dizaines d'années avec Pierre Dumayet, avec qui je me suis formidablement entendu. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il m'a énormément appris. Il me manque encore. Je me suis dit, voilà, il faut que je lui parle. Et que je lui parle, ce sont des conversations que je n'ai pas eues avec lui, parce que lorsqu'on se voit presque tous les jours, on n'a pas de grandes conversations, on parle de ce qu'on fait, etc. Et des fois, il y a des moments de silence. Et je me suis dit, voilà, je vais lui parler. Et dès que j'ai eu cette idée, j'allais dire, c'est du tout seul, c'est pas vrai, ça vient jamais tout seul. Je me suis dit, voilà, je vais lui écrire pour prolonger un petit peu cette relation que j'ai eue avec lui. Mmh. C'est né comme ça.
Oui, et d'un autre côté, en lui écrivant, vous le faites revivre aussi. Et je trouve que c'est déjà révélateur de votre rapport aux morts, au passé. Vous citez Jankélévitch à plusieurs reprises, vous dites à quel point vous êtes attaché à cette œuvre. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Le passé, comme les morts, a besoin de nous. Nous parlerons donc de ces morts afin qu'ils ne soient pas anéantis. Vous lui parlez et vous en parlez en même temps. Et ce faisant, vous le faites revivre, Robert Bobert.
Oui, parce que la télévision a des possibilités, des facultés d'oubli incroyables. Et c'est, on ne sait pas encore l'importance qu'il a eue par rapport au livre et la lecture.
Oui, alors justement, Georges Kiesman, avant d'en venir au vif de notre sujet, je voudrais vous demander, disons, si vous avez été, moi j'étais enfant, mais quand même, Lecture pour tous a compté pour moi, si vous avez été un téléspectateur de Lecture pour tous, si Pierre Dumayet représentait quelque chose pour vous, et éventuellement, vous qui avez vu beaucoup de monde, si vous l'avez connu, Georges Kiesman.
Alors, je ne peux pas dire que je l'ai connu, mais je l'ai croisé. Ah. Il était très proche des éditions de Noël, dirigé par Philippe Rossignol, qui était à la fois un ami et un client, et je l'ai suffisamment croisé pour me rendre compte que c'était un personnage tout à fait chaleureux, ouvert et intelligent. Je n'ai pas été un téléspectateur très assidu à cette époque, mais il est évident que c'était très important, les émissions comme Lecture pour tous.
Très important, et il faut se souvenir que ces émissions étaient diffusées en prime time, comme on ne le disait pas à l'époque, c'est-à-dire, je crois, à 8h30, et que les gens étaient très contents. Alors, on n'a pas le droit de dire la nostalgie aujourd'hui est mal vue, on n'a pas le droit de dire c'était mieux avant, mais pour ce qui est des émissions littéraires, on peut le penser. Moi, je me souviens d'entretiens avec Michel Foucault, par exemple, et puis les belles tirades, les beaux discours de Max-Paul Fouchet sur les livres qu'il avait aimés, et j'en reste un instant à Pierre Dumayet, parce que vous parlez, Robert Bobert, d'une émission que vous avez voulu faire avec lui, Relecture pour tous, pour l'anniversaire même de la naissance de Lecture pour tous. Nous étions en 2003, l'émission est née en 2053. Et Pierre Dumayet parle. Je me sens un peu tout bête d'être tout seul à regarder ces images, les images de Lecture pour tous, parce qu'on devrait être au moins cinq. Il devrait y avoir Desgroupes, il devrait y avoir Nicole Védresse, il devrait y avoir Max-Paul Fouchet, il devrait y avoir Jean Prat, qui a réalisé pour la première fois Lecture pour tous. Et je suis tout seul là, bête comme un vivant. Expression extraordinaire et qui peut s'appliquer à un certain nombre de situations. Et ce qu'on apprend, c'est que Relecture pour tous a effectivement été, l'émission a été faite, mais elle a été diffusée, je crois, en catimini sur Arte à peu près à minuit. C'est bien ça, Robert Bobert?
Oui, et cinq, six ans après avoir été réalisé, en plus.
En plus.
Et il y avait une autre émission qui l'accompagnait, c'était En revoyant lire ses vivres, qui était une émission aussi très importante, qui n'a toujours pas été diffusée.
Alors, maintenant, entrons dans le souvenir. Georges Kiesman, bête comme un vivant, dit Pierre Dumayet, vous dites sur le livre d'Auschwitz, vous écrivez sur le livre d'Auschwitz, pardon d'avoir survécu. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pour le moment, là, la première phrase de cet entretien que vous avez eu avec Vanessa Schneider. C'était une rubrique dans Le Monde, je n'en serais pas arrivé là, si. Et vous répondez, si ma mère n'avait pas été d'une extrême pauvreté et avait su lire, et si mon père n'avait pas été assassiné à Auschwitz, à partir de là, il y a un socle dont chacun peut comprendre qu'il est à l'origine d'un formidable appétit de survie. Je vous interroge, Georges Kiesman, parce que cette compréhension n'est pas si évidente. Ça aurait pu être le socle d'une indéfectible nostalgie. C'est-à-dire, vous auriez pu dire, malgré cela, malgré ce passé, malgré la mort de mon père, j'ai voulu survivre. Or, vous dites, non pas malgré, mais parce que. C'est assez paradoxal et j'aimerais que vous développiez ce thème, Georges Kiesman.
Oh, c'est à la fois compliqué et très simple. Lorsque vous êtes comme une plante dont on a coupé les racines, eh bien, elle essaye d'en reconstituer, de survivre. C'est comme un devoir, quand on a été nié dans son humanité, d'exprimer cette humanité par une vie nouvelle. C'est inconscient, mais très très fort. Alors, pardon d'avoir survécu, parce que le massacre des Juifs a été quelque chose de tellement gigantesque et d'un arbitraire inimaginable venant d'un peuple qui passait pour cultiver en Europe, que on se dit, pourquoi est-ce que j'ai pu y échapper ? Il y a une espèce d'injustice. Ma sœur qui a été déportée, qui faisait partie des 3% de déportés qui sont revenus vivants, était persuadée qu'elle avait sauvé la vie de son père parce qu'elle était présente chez lui au moment où on est venu l'arrêter et lui n'était pas là, était arrêté un peu plus tard. Eh bien, c'est ça, tous ces Juifs, tués ou pas tués, formaient ce même peuple poursuivi et... C'est comme ça, c'est totalement inconscient. Mais chez moi, c'est d'autant plus inconscient que je n'ai pas les mérites de Robert Bobert, je le dis tout de suite. Il est le bon juif que j'aurais voulu être alors que je suis un mauvais juif. Je veux dire par là que je n'oublie jamais, mais j'en parle très peu.
Oui, vous en parlez très peu, c'est vrai. D'où effectivement l'impression extrêmement forte donnée par cet entretien. Mais Robert Bobert, diriez-vous vous-même que vous avez tiré de votre expérience, enfin, de vous avez été un enfant caché, je crois.
Oui.
Un formidable appétit de survie. J'ai plutôt l'impression que chez vous, il y a une nostalgie inguérissable. Robert Bobert.
Oui, l'appétit de survivre, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, mais parce que j'étais... Il s'est passé à la Libération quelque chose de par rapport. Alors j'habitais le 13e arrondissement, je crois qu'il faut le préciser, où il n'y avait pas beaucoup moins de Juifs qu'à Belleville, etc. Et on n'était que deux Juifs dans la classe, Henri Beck, qui lui a été déporté et qui n'est pas revenu, et moi. Et donc on jouait, les copains de la rue, on jouait dans la rue, parce qu'on avait tous des petits logements, etc. Donc, et avec ces copains-là, je jouais, mais il y avait quelque chose qui ne passait pas. On n'avait pas les mêmes intérêts, c'était pas... Enfin, je pourrais pas le dire par des mots, ça s'exprimait pas. Enfin, bon, si de temps en temps, on continuait à me traiter de sale juif, et comme c'était après la guerre, j'avais le droit de répondre avec mes poings.
Ah, c'était après la guerre, ça.
Oui, après la guerre. Oui. Enfin, à la Libération.
Et pendant la guerre, vous étiez dans...
Alors, pendant la Libération...
Pendant la guerre.
J'ai été caché en pension, sous un faux nom.
Et vos parents étaient où?
Alors, mes parents étaient cachés ailleurs. Et puis, on était une douzaine d'enfants juifs dans cette pension, tous sous des faux noms, sans étoile, bien évidemment, puisque l'étoile... Il n'était pas question de se promener avec l'étoile. Et la dernière année, mes parents m'ont enlevé de la pension parce qu'il y avait des enfants dont les parents venaient de déporter. Et ils avaient peur qu'une mère de famille dise « il y a mon enfant », etc. Et que tout à coup, l'adresse devienne...
connue.
Tout à coup, soit connue. Et... Donc, juste après la guerre, mes parents, qui avaient été militants également, appartenaient à l'UGRE, Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui est une organisation qui, comme l'OSE, comme le Renouveau, etc., qui a retrouvé des enfants après la guerre, et ils ont organisé une sorte de colonie en mai 45. Et d'un seul coup, je me trouvais avec des enfants avec qui j'avais quelque chose à dire. Et je me suis rendu compte que, alors il y avait des enfants, on avait tous ceux qui étaient là étaient des enfants cachés, avaient été des enfants cachés, et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y en avait la moitié dont les parents n'étaient pas revenus de déportation. Et ça a été un moment déterminant pour moi.
Ah oui, et d'ailleurs, dans Quoi de neuf sur la guerre, vous parlez... de Georges, un enfant justement dont les parents ne sont pas revenus et qui va, qui est invité chez peut-être vos parents, en tout cas Léa et Albert, dans ce livre. Et puis, il arrive et la mère lui prépare une tartine à la confiture, et soudain, Georges se raidit, il ne veut pas de confiture. Et on ne comprend pas pourquoi, et on le comprend un peu après, dans des confidences qu'il fait à son ami, le fils donc d'Albert et Léa, et je le lis, un matin très tôt, c'était en 42, on a frappé très fort à la porte, c'était la police. J'étais encore au lit. Mon père, d'un seul coup, m'a pris dans les bras et très vite m'a mis dans le placard et il m'a dit « Tu ne bouges pas, tu ne dis rien ». Je ne l'avais jamais vu comme ça, il était tout blanc. Il a refermé la porte du placard en laissant une petite ouverture pour que je puisse respirer. C'est par là que j'ai tout vu. J'ai vu trois agents rentrer, ils parlaient d'emmener mes parents. Mon père a pris une valise sous l'armoire et ils ont mis des affaires dedans. Je ne voyais pas bien ma mère, c'était comme si mon père se mettait exprès entre elle et moi pour pas qu'elle me voie. Mais je n'osais pas bouger parce que j'avais peur et aussi à cause du ton autoritaire de mon père. J'avais 9 ans et j'étais pas gros et c'était facile pour moi de ne pas bouger. Pourtant, je ne savais pas ce que je craignais le plus, rester caché ou être découvert. Quand ils sont sortis, c'est un agent qui portait la valise, ma mère pleurait et mon père la tenait par le bras. Après leur départ, je suis resté encore longtemps, je crois, dans le placard, sans oser en sortir. Je pleurais sans bruit. Et puis, j'ai vu près de moi le pot de confiture que mon père avait ramené un soir. Alors, je l'ai ouvert et avec le doigt, sans bouger du placard, j'ai mangé toute la confiture du pot. Je vais dire, sur une tragédie immense, inimaginable, comme l'a dit Kiechmann. On a l'impression que par cette anecdote, vous dites absolument tout, Robert Bobert. Et j'ai du mal à la lire moi-même sans que les larmes me viennent aux yeux.
Oui, oui. Et être caché, être découvert, c'est une phrase de Georges Perec dans W ou le souvenir d'enfance. Et voilà, c'est un souvenir. Bon, ce livre est un roman.
Oui.
C'est-à-dire que je l'ai écrit d'une manière un peu différente. Et
mais il y a des souvenirs quand même.
Mais il y a le souvenir.
Bien sûr. Alors, Georges Kiechmann, quelle a été, vous, votre enfance d'enfant caché?
Alors, mon enfance a été assez différente de celle de Robert Bobert, parce que mon père s'est engagé dans l'armée en 1939. Ma famille a fait partie de trains de réfugiés envoyés dans le Berry. Et après diverses aventures, un passage dans un collège de jésuites, je me suis retrouvé dans le Berry, dans un tout petit village de quelques centaines d'habitants. Ce qui fait que maintenant encore, il m'arrive de commencer une phrase par « Nous, juifs berrichons, pensons que les juifs berrichons soient assez rares ». Et ensuite, j'ai été dans un collège, et ce collège est encore une fois lui aussi entièrement composé de berrichons pure souche, si je puis dire, sauf un jeune juif qui était en seconde et moi qui étais en sixième. Et lorsque, en juillet 44, il y a eu un mouvement pour arrêter tous les juifs de la région, ce camarade qui était en seconde a été jeté dans ce qu'on appelle les puits de Guéry, j'y insiste, en juillet 44. Et si j'avais été encore au collège, si ma mère ne m'en avait pas retiré quelques jours auparavant, eh bien, je suppose que j'aurais subi le même sort. C'est encore une fois, au-delà de l'horreur, l'absurdité de tout ça qui est absolument insupportable. Comment est-ce qu'un enfant peut comprendre qu'il est pourchassé simplement parce qu'il est ce qu'il est? Comment est-ce qu'il peut comprendre que son père ne reviendra jamais, que sa sœur ne reviendra peut-être pas? C'est absolument incompréhensible. Alors effectivement, il y a deux attitudes possibles. Il y a une attitude que je dirais empathique, qui est l'attitude de Robert Bobert, qui est celle d'ailleurs que j'aurais aimé avoir. Et puis il y a un peu aussi une attitude plus frileuse, qui consiste très souvent, non pas à oublier, encore une fois, on n'oublie jamais, mais à essayer de ne pas trop en parler.
Oui, vous n'en parlez pas trop, mais vous n'avez jamais rien caché non plus, Georges Kiechmann, donc je ne suis pas sûr qu'à votre propos on puisse parler de frilosité.
Ah non, mais
de frilosité.
Il n'est pas question de dissimuler cette espèce d'essence prétendue, la judaïté, qui fait qu'on a le droit de vous tuer. Moi, j'ai toujours, évidemment, en grandissant, en vieillissant, en cultivant, été frappé d'incompréhension devant ces Allemands, je dis bien ces Allemands et pas uniquement une poignée de psychopathes, qui pouvaient trouver normal qu'on tue à la mitrailleuse avant même de recourir aux chambres à gaz des familles entières de vieilles femmes, d'enfants. On a eu récemment à sa disposition le livre d'un historien anglais qui a examiné la correspondance des militaires allemands, des militaires de base. Et c'est pour ça que il faut tout le temps être vigilant, parce que on voit encore une fois un grand peuple dont les membres, au début, sont un peu stupéfaits de ce à quoi on les convie, c'est-à-dire tués, massacrés, et puis qui, petit à petit, finissent par se convaincre qu'après tous ces enfants de 5-6 ans, il vaut mieux les tuer avant qu'ils soient un danger pour la patrie. Oui. Et alors ça c'est vraiment la leçon à maintenir sans cesse, et une leçon qui risque de se perdre si on veut bien prendre conscience que Robert Bober et moi, nous sommes la dernière génération de survivants.
Oui, mais vous parlez des Allemands, mais vous êtes caché en France. Votre père et votre sœur, je crois, ont été déportés de France. Et la question que je voudrais poser à vous, Georges Kijama, ainsi qu'à Robert Bober, en avez-vous conçu un ressentiment vis-à-vis de la France, une méfiance, ou bien au contraire, avez-vous su vaincre le ressentiment et être pleinement un citoyen français, Georges Kijama?
Écoutez, de ressentiment vis-à-vis de la France, je crois n'en avoir jamais eu. Même dans le tout petit village où on était caché, je pouvais d'instinct dire qui nous aurait désigné, ma mère et moi, et qui aurait fait beaucoup pour nous protéger. Non, mais j'ai un ressentiment très très fort à l'égard de ce qu'on a appelé le régime de Vichy. Je pense à la fois qu'il représentait bien l'État souverain à cette époque, et donc, comme l'aurait dit Jacques Chirac dans un discours devenu fameux, que cet État était bien responsable de l'horreur du moment, mais je n'en ai jamais été conduit à une colère contre les Français eux-mêmes, dont, encore une fois, je suis très conscient que beaucoup ont sauvé, beaucoup ont protégé ces Juifs. Mais par contre, la responsabilité du régime de Pétain, plus je vis, plus j'étudie cette époque, plus je suis convaincu qu'elle est immense.
Oui, il y avait le régime et puis il y avait une partie de l'opinion. Et vous, Robert Bober,
non,
est-ce que le ressentiment vous a habité ou vous habite encore?
Non, pas
Robert Bober.
Non, je pensais à autre chose. J'ai commencé à travailler très tôt. Hein. J'ai été tailleur, comme beaucoup de juifs ou d'arméniens. Et pour moi, il me suffisait de vivre. De vivre avec, d'aller au cinéma, d'avoir des copains, et en même temps, avec ces enfants avec qui j'avais été, on s'était retrouvés, il y a une organisation qui s'est créée de juifs proches du Parti communiste, et j'ai devenu un militant non pas communiste, mais un militant contre l'antisémitisme. Voilà, c'est l'origine du MRAP.
Et, ah oui, qui a beaucoup changé quand même.
Qui a beaucoup changé, c'est pourquoi je parle d'origine. Et on vendait un journal qui s'appelait Droit et Liberté, je ne sais pas si ce journal existe encore, et on le vendait... non pas à la crier, quand même, ça serait exagéré, mais dans les boutiques, on savait qu'il y avait des familles juives, et c'était une façon d'être militant. L'autre façon d'être militant, qui pour moi était beaucoup plus importante, c'est lorsque j'étais moniteur dans ces colonies de vacances, où beaucoup d'enfants avaient eu leurs parents déportés, j'étais très attaché à ces enfants, et d'année en année, et même des fois j'allais les voir dans le courant de l'année, dans ces maisons d'enfants où ils étaient là. Et ces enfants, je considère que d'avoir été des années avec eux, ils ont le sentiment que je leur avais apporté quelque chose, parce que j'étais le moniteur. Mais je suis persuadé qu'eux m'ont apporté beaucoup plus.
Oui, mais Robert Bober, vous dites dans... Par instant, la vie n'est pas sûre. Vous avez cette phrase. Aux quatre coins du monde, les Juifs survivants portent en eux des images de la vie juive de l'Europe de l'Est qu'ils n'ont pas connue. Dans Quoi de neuf sur la guerre, vous dites aussi que, enfin votre héros, c'est-à-dire un peu vous-même quand même, a voulu prendre, c'est extraordinaire, des photographies de vieux juifs à accent. C'est merveilleux, parce que l'accent, on ne l'entend pas évidemment dans les photographies, mais c'est comme un monde, la Yiddishkeit, dont vous portez le deuil sans en fait vraiment l'avoir connu. Ce qui fait que vous regardez constamment derrière vous, un peu sous un angle général, comme cet autre personnage de Quoi de neuf sur la guerre, Charles. Charles, il travaille dans l'atelier dont Albert est le propriétaire, le patron. Et Léa, la femme d'Albert, est un peu frustrée dans son couple, donc elle fait des avances à Charles. Elle fait des avances à Charles et il les refuse. Et il lui dit ceci, ne rêvez pas d'être ma femme Léa, je ne suis pas un homme pour l'avenir, je vis le présent parce qu'il me permet de me souvenir, et si je ne m'en souviens pas, qui s'en souviendra? Il ne faut pas chercher à prendre la place d'Ella, Ella, sa femme morte, tuée dans la Shoah, il ne faut pas parce qu'elle n'est plus là pour la défendre, elle n'a plus que moi pour la protéger. Donc, Charles, il s'agit de sa femme, mais vous, il s'agit aussi d'un monde révolu dont vous voulez quand même absolument qu'il reste quelques traces.
Ah oui, Robert Bobet. Oui, alors c'est quelque chose qui me tenait à cœur pendant longtemps, et un des films les plus importants pour moi, en tout cas, que j'ai fait, et qui était ensuite important pour d'autres, c'est un film qui s'appelle « Réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise ». C'est la mention qu'il y avait sur ma carte d'identité, parce que j'étais naturalisé français qu'à l'âge de 24 ans. Et j'ai éprouvé le besoin d'aller en Pologne, à Radom, là où mon père était né, à passer les 20 premières années de sa vie. C'était une sorte de recherche et d'affirmation d'identité. Je me suis dit, il faut que je passe par là pour pouvoir... Et j'ai appris après coup que après que ce film soit passé à la télévision, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont demandé un visa pour aller en Pologne. Donc, je n'étais pas le seul à éprouver ça. Ben, il fallait ce déclic.
Alors c'est étonnant ce que vous dites parce que... moi, j'étais...
Si vous le permettez, Alain.
Ah oui, mais j'allais vous interroger. Mais excusez-moi, allez-y, Georges Kejman.
Oui, sur ce point, sur cette difficulté pour les Juifs d'origine polonaise à retourner en Pologne, au cours d'un déjeuner qu'on va appeler un déjeuner d'intellectuels, Monseigneur Lustiger avait été amené à dire qu'il était dans l'incapacité de se rendre en Pologne, alors qu'il acceptait volontiers de faire des voyages en Allemagne. Et puis, les choses de la vie sur lesquelles je ne reviendrai pas font que je l'ai rencontré quelques mois plus tard, et à ce moment-là, il m'a dit... comme ça, brûle pour point, j'y ai été, j'ai immédiatement compris qu'il était fier d'avoir survécu à cette impossibilité de se rendre en Pologne, qui était quand même le point de départ de tellement d'émigrés. Oui, les Juifs polonais et en France, si je puis dire, ont beaucoup de mal à l'égard de ce pays, comme à l'égard de l'Allemagne, et c'est parfaitement normal, même si on ne parle pas de ressentiment. Et puisque j'ai la parole, je voudrais venir une minute sur le livre magnifique, effectivement, Quoi de neuf sur la guerre, de Robert Bobert, parce que ce qui m'avait frappé, c'est que sa compassion sur les victimes ne concerne pas seulement les victimes juives, mais toutes les victimes de toute tragédie. Moi, la scène qui m'avait mis au bord des larmes, c'est quand effectivement le maître de l'atelier croit qu'il va avoir un dîner d'aventure galante avec une de ses ouvrières qui a accepté justement de dîner avec lui, et puis en réalité elle fond en larmes et elle lui dit que ce qu'elle voudrait, c'est qu'il engage sa sœur qui a été tendue à la libération parce qu'elle a eu un enfant avec un soldat allemand. Et j'ai trouvé quand même que chez Bobert, justement, cette capacité a montré qu'on avait été englobé dans une tragédie avec plein d'aspects et que, contrairement à ce qu'on pense, les Juifs ne sont pas toujours repliés sur eux-mêmes, que ce sont au contraire des gens capables de beaucoup d'empathie à l'égard du monde extérieur, c'est pas un des moindres mérites du livre d'une manière générale, de l'œuvre de Bobert.
Robert Bobert, un commentaire là-dessus ?
Non.
Alors, je vous invite pas au repli. D'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, Georges Kiechmann. Mais portez-vous aussi cette nostalgie d'un monde disparu, du monde de ce qu'on appelle la Yiddishkeit ? Oui ou non ? Est-ce que ça fait partie de votre caractère, de votre tempérament, de votre rapport au monde, Georges Kiechmann?
Non, écoutez, je dois dire avec beaucoup de sincérité que la Yiddishkeit ne me manque pas. La vie du shtetl, je la connais par les romans de Bashevis Singer, mais il ne me viendrait pas à l'idée de vivre dans un milieu qui reconstituerait tout ça. Je suis absolument englouti par la modernité, et donc non. Je ne suis pas un nostalgique de la Yiddishkeit.
Mais vos parents parlaient Yiddish ?
Oui, ils parlaient un petit peu Yiddish, ma mère surtout. Je le comprenais probablement à l'époque. Peut-être est-ce que je le comprends encore mieux aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'avais un petit mouvement de défense. J'étais instinctivement dans la langue française, me l'appropriant, creusant ma patrie. Non, je peux pas dire. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai toujours beaucoup de mal à me définir comme juif. Ça me paraît évident que je suis juif, mais je ne pratique pas sur le plan religieux. Les prières que je connais sont pas des prières talmudiques, mais des prières que j'ai apprises dans un collège de jésuites. Donc, en réalité, il me semble, je l'ai dit dans l'entretien auquel vous avez fait allusion, que ce qui unit les Juifs aujourd'hui, c'est quand même le malheur commun qui a été le leur, et la nécessité de se souvenir suffisamment pour éviter le retour d'un tel malheur.
Oui, vous dites dans cet entretien, justement, Georges Kiechmann, vous dites très exactement, je ne sais pas ce que c'est que d'être juif, à part être solidaire de tous les autres juifs. Reprenez-vous cette définition à votre compte,
non,
Robert Bobert.
Non. Je parlais du film tout à l'heure, mais j'aurais dû préciser que le tout premier film que j'ai réalisé s'appelle « Sholem Aleichem, un écrivain de langue yiddish ». Il était pour moi important de commencer par ça. Et la nostalgie du yiddish, on l'a d'autant plus, enfin pour ceux qui l'ont, c'est que c'est pas une langue qui a été perdue petit à petit, comme c'est arrivé dans, un peu partout dans le monde, mais c'est une langue qui a été assassinée. Et c'est pas par hasard que, au moment où j'ai fait ce film en 67, qu'il n'y avait que quelques dizaines d'étudiants qui apprenaient le yiddish, aujourd'hui ils sont quelques centaines. C'est-à-dire que c'est une langue qu'ils n'ont jamais entendue, mais ils savent que cette langue, c'est quelque chose qui doit être transmis, que c'est un des grands moyens de se souvenir.
Et d'ailleurs, dans votre dernier livre, vous citez Rachel Hertel, oui, grande traductrice du yiddish, qui enseignait, je ne sais pas si elle le fait encore, le yiddish à l'université. Elle a cette phrase, le traducteur de yiddish est le seul traducteur qui, en traduisant, fait le deuil de la langue qu'il traduit. Il témoigne doublement de l'effervescente créativité que fut cette langue et de son assassinat. Donc, d'une certaine manière, vous en portez le deuil. Mais là, je voudrais m'arrêter une seconde et pour anticiper une critique possible de certains auditeurs. Critique de l'entre-soi. Robert Bobert, Georges Kiechmann, dans une émission d'Alain Finkielkraut, pour parler de la judéité, nous reviendrons d'ailleurs sur ce thème, de la nostalgie, de la Shoah, du yiddish. Y a peut-être des auditeurs qui doivent se dire, mais est-ce qu'on vous dérange ? Alors, je voudrais, à ce point de l'émission, citer une phrase de Richard Marienstrass, dans son livre « Être un peuple en diaspora ». Qu'un Français essaie d'imaginer, mais peut-il imaginer cela jusqu'au bout ? La France rayée de la carte et lui se retrouvant avec une poignée de francophones, parmi des hommes très ignorants de ce que fut la collectivité à laquelle il appartenait, et dont la langue, les mœurs, le paysage, l'histoire, la cuisine, les institutions, la religion, l'économie définissaient les modalités concrètes de son appartenance au genre humain. Quel serait alors son goût de vivre? Quelle possibilité aurait-il de s'identifier autrement que de la façon la plus extérieure au projet de sa communauté d'accueil? Il n'en reste pas moins que vous deux, Georges Kiechmann et Robert Bobert, vous ne vous êtes pas identifiés de manière extérieure au projet de cette communauté, en dépit de ce qui vous est arrivé, de ce qui est arrivé à vos proches. Georges Kiechmann, vous avez dit tout à l'heure que votre père a été déporté, votre vie avec votre mère aussi a été très difficile, dans un tout petit appartement à Belleville, avant et juste après la guerre, une mère silencieuse, silencieusement aussi affectueuse, donc qui ne vous prenait pas dans vos bras, une vie très douloureuse. En même temps, vous êtes à ce point identifié à la France que vous avez eu, et j'aimerais que vous en disiez quelques mots, une collaboration très étroite, très amicale avec Pierre Mendès France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Georges Kiechmann?
Oui, alors, là encore, on risque de penser que mon affection, ma fidélité à Pierre Mendès France repose sur le fait qu'on était juifs tous les deux. Mais on était tous les deux des juifs qui ne parlaient rarement de leur judaïté. Quant à lui, je n'ai jamais entendu l'évoquer, bien que j'ai appris que pendant la guerre, il souffrait, étant officier aviateur, de n'être jamais reconnu comme le chef de bord de son appareil. Mais c'est un détail parmi d'autres. Non, mon admiration pour Mendès France venait du fait que l'homme politique était d'une ampleur exceptionnelle et qu'il appartenait à cette génération qui croyait encore à la démocratie, c'est-à-dire à la possibilité entre les gouvernants et les gouvernés de se faire confiance, cette confiance qui a tellement disparu aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lié effectivement à un patrimoine culturel qui nous était commun. En tout cas, si ce patrimoine culturel existait, c'était un patrimoine qui était essentiellement français. Il y avait cette culture française de Mendès France, n'en déplaise à Tissier Villancourt qui disait « Mendès, c'est un nom français, c'est une adresse ». Non, Mendès était un citoyen admirablement représentatif de la France, et c'est comme ça qu'on le vivait quand il a, pendant peu de temps, occupé la présidence du Conseil. Non, mon lien avec lui, et ces liens qui ne s'expliquent pas, qui sont des liens affectifs qui reposent sur, je sais pas, 1000 petits gestes, 1000 manières de réagir devant l'événement, de partager des choses difficiles.
Mais vous dites justement que c'était très différent du lien que vous avez eu plus tard avec François Mitterrand. Donc il y avait quelque chose de plus, une sorte de communauté. Et ouais, vous avez trouvé tout à fait autre chose avec François Mitterrand.
Que quelque chose de plus tenait à ce que Pierre Mendès France et moi, on était juifs tous les deux, je vous dirais résolument non.
Ah ben c'est, non, oui.
Non.
D'accord, très bien. Mais merci de le préciser. Je reviens au titre de votre livre parce que il est intéressant, il est évocateur pour vous deux. Robert Bobert, par instant, la vie n'est pas sûre. C'est une phrase de Pierre Dumayet, oui. Mais vous la reprenez comme titre. On peut comprendre que la vie n'ait pas été sûre pendant la guerre que vous avez l'un et l'autre traversée. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui encore, ce titre vaut. Qu'aujourd'hui encore, la vie ne soit pas sûre, Robert Bobert.
Oui, c'est un titre au présent. Même.
Voilà.
Oui, je crois que c'est un truc qu'il faut se... C'est une phrase qu'il faut se dire de temps en temps. Et oui, je crois, par instant, la vie n'est pas sûre.
Mais par exemple, aujourd'hui, pourquoi ne serait-elle pas sûre? Puisque on pourrait presque dire que nous sommes protégés par la mémoire de l'horreur absolue de son retour. Robert Bobert.
Pas vraiment. Enfin, le racisme est une chose. J'ai une petite maison dans un village de France, et j'ai voulu faire connaissance avec les gens qui étaient là autour. Et ma femme était invitée par une voisine qui l'a présentée à une autre voisine en disant « Ce sont des nouveaux habitants qui sont là ». Et l'autre dame, la première question, a dit Est-ce que vous êtes française ? Et ma femme a dit oui. Alors après, je lui ai dit, t'as eu tort. J'aurais dit oui, et vous ? Et donc, c'est quelque chose que... non seulement on nous rappelle ce qu'on est, mais si on est nouveau, on se dit, qui est ce nouveau ? D'où vient-il ? Et donc, pour les Juifs, bien évidemment. Voilà. Et si je peux revenir un petit peu en arrière, cette nostalgie, enfin ce qu'on appelle cette nostalgie de la Pologne, de la Yiddishkeit, Perec l'a eu aussi. On s'est connu comme ça avec Perec, à qui rien n'a été transmis. Il le dit, je ne suis pas différent des autres, je suis différent des miens. Quelque chose qui était eux, quelque chose qui était à eux, leur culture, leur histoire, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Et c'est lorsqu'il a vu le film que j'ai tourné en Pologne, qu'il a pris contact avec moi pour dire « il faut qu'on fasse un jour un film ensemble ». C'est-à-dire qu'il est venu me chercher, il lui manquait quelqu'un pour dire ce qu'il aurait envie de dire. Et ça a débouché sur Ellis Island.
Oui, alors sur la Pologne, c'est vrai, moi j'ai toujours eu envie d'y retourner avec mes parents pour qu'ils m'expliquent un peu. Mon père a été déporté à Auschwitz, ma mère est née à Lwów, qui était dans la polonaise, mais ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu, et mon père n'a pas voulu retourner à Auschwitz, non pas simplement parce qu'il ne voulait pas revivre l'horreur, mais parce que c'était en Pologne. Et j'en suis désolé encore, et je suis désolé de n'avoir pas su les convaincre. Mais puisque vous citez Georges Perec, moi je voudrais à mon tour lire quelques mots de Ellis Island. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça m'a fait que d'être juif. C'est une évidence si l'on veut, mais une évidence médiocre, qui ne se rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil. J'aurais pu naître comme des cousins proches ou lointains à Haïfa, Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais et suédois. Mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une chose m'était précisément interdite, celle de naître dans le pays de mes ancêtres, à Lubartov ou à Varsovie, et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté. Alors, je me tourne vers vous, Georges Kiechmann. Est-ce que vous diriez aussi, comme Robert Bobert, vous reprendriez à votre compte cette phrase « Par instant, la vie n'est pas sûre » Georges Kiechmann.
Oui, je trouve que cette phrase est magnifique et qu'effectivement, tout juif la porte gravée en lui-même. Le texte de Perec que vous venez de lire, je le reprends aussi à mon compte parce que c'est exactement ça. Les juifs, on leur dit qu'ils sont chez eux nulle part. Mais moi, j'ai fait ce choix, et beaucoup l'ont fait, de trouver que la France est un pays d'accueil merveilleux malgré les souvenirs épouvantables des années 39-45. Et donc, on peut, étant juif, se reconstituer une nouvelle patrie, en l'occurrence la France, tout en restant fidèle à ses racines, c'est-à-dire sa qualité de juif, tant que, encore une fois, les autres y verront une question négative.
Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'antisémitisme a un peu changé de nature et que la mémoire peut nous aveugler sur ce changement ? Il y a eu le procès de Charlie et d'Hypercacher, et dans ce procès, une femme rescapée de l'Hypercacher a témoigné, et d'Ali Koulibaly qui lui a dit « Vous aimez la vie, moi j'aime la mort, donc je suis supérieur à vous, et vous incarnez ce que je déteste le plus au monde, vous êtes juif et vous êtes français ». C'est donc une sorte de communauté de destin entre les juifs et les français, créée par un antisémitisme sans rapport avec celui qui faisait hurler à certains manifestants la France aux Français. Et peut-être est-ce pour cela aussi que la vie n'est pas sûre aujourd'hui, Robert Bobert.
Oui, non, mais je ne peux qu'approuver tout ce que vous venez de dire. Bien évidemment, c'est très difficile. Enfin, J'y pense tout le temps. Il y a aussi une question qui m'a souvent été posée, qui continue d'être. À cause de ce que je suis, on me demande si je suis plus français que juif, ou plus juif que français, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et je réponds toujours, je suis 100% juif et je suis 100% français. Si on n'est pas 70% français et 30% juif.
Mais donc vous pourriez être aujourd'hui insulté en tant que juif et en tant que français, puisque dans certaines banlieues, les deux injures les plus courantes, c'est celle juif et celle français.
Oui, voilà, oui.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, Georges Kiechmann, justement, de cette nouvelle forme d'insécurité qui peut servir ?
L'antisémitisme du XXIe siècle a des formes différentes de l'antisémitisme de l'époque de l'affaire Dreyfus, par exemple. Mais comme je ne me place pas sur un terrain moral, mais sur un terrain intellectuel, c'est vraiment, quand on veut abattre son chien, on lui trouve la rage. C'est une question de stupidité totale. Je n'arrive pas à m'y retrouver dans ce gouffre qu'est l'antisémitisme. C'est vrai qu'il y a des nouvelles résurgences, certaines liées évidemment à la situation au Moyen-Orient et à l'existence de l'État d'Israël auquel nous sommes forcés d'être attachés malgré les défauts de sa gouvernance. Mais peu importe les modalités que ça prend, j'ai l'impression qu'effectivement toujours de ci, de là, renaîtra une bouffée d'antisémitisme. Mais encore une fois, je voudrais me passer sur un plan purement intellectuel. Est-ce que quelqu'un peut trouver une explication satisfaisante à ce qu'est l'antisémitisme ? Peut-être qu'il se propage par la continuité des clichés, par exemple leur prétendu avarice, alors que je n'ai connu que des juifs prodigues ou des choses comme ça, mais n'importe comment, on a vraiment l'impression que l'humanité a besoin d'une part de bêtises permanentes et qu'il la trouve dans l'antisémitisme.
Bien, c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'allons pas résoudre ce problème vertigineux, mais une dernière question peut-être, Georges Kiechmann, à partir du livre de Robert Bobert. Robert Bobert pense beaucoup aux morts pendant la guerre et aux morts aussi plus récents. Il y a des pages très émouvantes sur du billard, et puis sur Paul Tchaïkovski d'Orense, le fondateur des éditions Paul, qui est mort il y a 2 ans, je crois, dans un accident de voiture. Et Robert Bobert lui avait apporté 8 pages d'une nouvelle, non pas pour la publier, mais pour savoir ce qu'il en pensait. Et Paul lui a dit, c'est un très bon début de livre. Et Bobert lui dit, non, c'est ma nouvelle. Non, c'est un début de livre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est sans doute pour ça que je suis éditeur. Et ça a donné quoi de neuf sur la guerre? Ce véritable chef-d'œuvre. Alors moi, j'ai envie de me tourner vers vous, Kiechmann, parce que cet entretien avec Vanessa Schneider nous donne envie d'en savoir plus. Et j'ai envie de faire mon Paul Tchaïkovski d'Orense et de vous dire, c'est un beau commencement, continuez, allez creuser, peut-être d'ailleurs sous la forme aussi d'un entretien avec Vanessa Schneider, pourquoi pas, sous la forme que vous choisissez, mais est-ce que cette idée vous semble intéressante, tenable, ou est-ce que ça n'entre pas dans vos projets possibles, Georges Kiechmann?
Écoutez, oui, beaucoup de gens, d'amis, de proches me disent continuer, et peut-être que je le ferai. Je l'ai envisagé avec Vanessa Schneider, qui est certainement la personne la mieux à même de me faire dire quelques vérités. Mais en même temps, il y a une part de modestie naturelle qui fait que je ne crois pas que mon destin soit si exceptionnel que ça. Et d'autre part, il y a ce côté français qui de temps en temps l'emporte sur ma judaïté, c'est que vous voyez, moi je me rêverais comme un héros standalien, quelqu'un qui n'aurait jamais eu à souffrir.
Mais vous pourriez dire les deux. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire que les deux soient présents. C'est pas la peine de faire plus le juif que vous n'êtes. C'est, franchement, c'est pas ce qu'on attend. Ça serait peut-être l'originalité de ce témoignage.
Écoutez, elle a fait quelque chose encouragé par vous. Je vais y réfléchir sérieusement. Je demande simplement au Seigneur de m'accorder une bonne dizaine d'années pour y arriver.
Je vais m'adresser de votre part au Seigneur et je lui demande de vous accorder, ainsi qu'à Robert Bobert, 10 années supplémentaires, parce que nous avons besoin de vous deux, et nous avons besoin de vous lire. Et puis je lirai pour finir ces quelques mots de Jacqueline Ménil-Amard. Ces mots très beaux. après 13 ans d'hitlérisme, après 4 ans d'occupation nazie en France, après les camps, les wagons et les fours, il n'est pas un seul juif, croyant ou incroyant, perdu ou retrouvé, qui ne se souvienne qu'il est juif. La routine ou la négligence des uns, la honteuse ignorance des autres, l'intransigeance des premiers, le reniement des seconds, tout a fondu au destin d'Israël. Israël au sens général du terme, et encore une fois, ceux qui pourraient être agacés par ce propos final, je les renvoie à la lecture du livre de Marianne Strauss, « Être un peuple en diaspora ». Et puis surtout, je voudrais citer l'ouvrage de Robert Bober, « Par instant, la vie n'est pas sûre », publié chez Paul, et puis également « Quoi de neuf sur la guerre », chez le même éditeur, parce que Robert Bober est un homme fidèle. Et puis, je voudrais aussi renvoyer à votre entretien, Georges Kiegeman, sous le titre « La vie m'a offert une succession de bienfaiteurs ». C'est un entretien publié dans Le Monde du dimanche 6, lundi 7 décembre, un entretien avec Vanessa Schneider. Alors, voilà, là, tout d'un coup, je me retrouve prisonnier et je ne... Alors là, c'est nous sommes en direct et je suis complètement perdu parce que je n'ai pas mes notes de la désannonce. Alors, je voudrais vous dire que c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut. À la technique aujourd'hui, ah voilà, François Connard vient de me... Ah, donc, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, voilà les avatars du direct, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connard. À la technique aujourd'hui, Clara Galivelle. La semaine prochaine, nous rediffuserons l'émission à la découverte de Georges Eliot avec Mona Ouzouf. Et pour la première émission de 2021, j'inviterai Laurent Mauvignier pour Histoire de la nuit, et le titre de l'émission sera le prix Réplique. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.